Secure your place.
Vous écoutez la radio francophone d'Auckland, Amuse-Gueule.
Bonsoir, kia ora, good evening. Vous êtes en compagnie de Fred.
Bonsoir.
J'ai des... Alex.
Oui, bonsoir.
J'ai failli oublier ton prénom.
C'est spécial BD.
C'est spécial BD.
Alex, c'est parfait. Non
Alex, c'est parfait. Oui. Franchement, que j'ai jamais aimé Alex. Bah, pas ton prénom. Hein, je trouve ça super. Mais tu connais la BD Alex.
Tu as raison. Je déteste cette BD aussi.
Je sais pas pourquoi ça m'a jamais branché. C'est peut-être le côté un peu gay de l'histoire. Bon, enfin bon, c'est David à l'appareil.
C'est très stéréotypé.
Bonsoir, nous sommes dimanche. On est dimanche quoi 7, 8 juin
9. Quoi
9. Ça passe vite le temps. Hein.
Hier, c'était dit. Non.
Non, mais c'est parce que, à cause du décalage horaire avec l'Angleterre, qui fête les 75 ans du D-Day, dont tu vas parler, on a eu le 5 juin, le 6 ici, on a eu les nouvelles du 6, le 7, donc on a les nouvelles un peu, toute la semaine, j'ai été un peu décalé par rapport à la date de cette semaine.
C'est la faute des Anglais.
C'est la faute des Anglais, parce qu'on reçoit les nouvelles d'Angleterre, où ils font la fête, la fête. Ils honorent les gens tombés, puis les gens encore vivants. J'étais un peu surpris d'ailleurs de voir qu'il y avait encore autant de gens vivants du D-Day, parce que je croyais qu'ils étaient tous qu'ils n'avaient plus.
Mais c'est exactement la
question. J'ai dû confondre avec 14-18.
En conduisant ma fille au hockey de jeudi soir, donc on écoutait la radio et ma fille elle dit mais la Deuxième Guerre mondiale, ils sont tous morts quand même.
Non, la première.
Non, c'est la première, ma chérie. Puis je dis tu sais ta grand-mère, ma grand-mère qui est encore en vie. Elle en est revenue, donc oui.
Donc il y en a encore beaucoup de vivants. Non, mais mes deux grands-pères sont, tous mes grands-parents sont décédés. Donc, mais ma maman était née en 37, donc elle a survécu à la guerre, mais elle n'a pas fait la guerre.
Ouais, mais moi j'ai une grand-mère de 95 ans et qui a encore toute sa tête.
Elle l'a fait plus.
Voilà.
Donc, elle a 95 ans, donc elle avait presque 20 ans, 18, 17.
Ouais, mon grand-père, mon grand-père, lui, il est décédé, mais mon grand-père, il a été en camp près de Dresde.
Oui.
Donc, d'ailleurs.
Il a peut-être connu mes deux grands-pères, qui étaient aussi en camp, un pendant 6 ans, l'autre pendant 4.
Ouais, en camp de travail. Et d'ailleurs, il y a une BD que j'ai offert à mon père.
Qui
raconte l'histoire des camps de travail.
C'est quel titre, tu te rappelles?
Complètement oublié.
On recherchera ça.
Mais j'en ai parlé à la radio il y a longtemps.
Donc Fred et moi, David, on va vous parler BD. Alex, t'as envie de parler ce soir?
Je peux en parler si je connais les BD dont vous parlez.
D'accord.
Un petit peu.
Et sinon, tu vas sûrement, parce que j'ai amené un classique. Parce que moi, ce que je vais faire, c'est je vais parler un peu de guerre aussi. Mais j'ai ramené 4 BD. Deux dont j'ai beaucoup beaucoup aimé. 4 BD qu'on trouve à la bibliothèque d'Auckland, faites par des Français ou des francophones. Il y a un Québécois dedans, il y a un Vietnamo-Français, et il y a des classiques, Mézières, Valérian et Laureline. Mais c'est juste pour vous dire, c'est en anglais, hein, ce sont des bouquins en anglais, mais il y a les mêmes en français dans la vie, si vous les achetez. Mais on peut les trouver à la bibliothèque d'Auckland, ce qui fait que c'est bien, parce que la bibliothèque d'Auckland, souvent, les bibliothèques en Nouvelle-Zélande, ils achètent des BD américaines ou des mangas. Mais pas beaucoup de BD, donc des comics, super-héros, machin, Superman, Batman. Mais pas beaucoup de BD à la franco-belge. Et donc là, je me suis fait plaisir, j'ai trouvé pas mal de BD franco-belge.
Mais du coup, c'est des traductions alors?
Ce sont des traductions, mais c'est pas trop grave, puisque ça vous ouvre à une autre chose qu'à Batman, Superman.
Mais ceci dit, il y a des BD anglaises.
Ah, très très bien.
Très très bien, et qui sont pas des comics.
Voilà.
Mais c'est plutôt anglais qu'américain.
Et c'est rare, et c'est Angleterre d'habitude, tu as raison. Ou Canada, que j'en ai une, c'est du Québec. Mais je vous rappelle ça tout de suite. Est-ce qu'on a des annonces ce soir ou pas, Alix? On a des annonces, il y a du théâtre, du cinéma, il y a la fête de la France, la fête française, il y a Renaud.
Il y a plusieurs événements pour supporter les écoles francophones. Voilà. Il y a une Comedy Night.
C'est en
juillet, je pense.
D'accord. C'est sur quel site? C'est pour Richmond
Road. Si vous allez sur les parents à Auckland ou l'Étoile du Nord, Facebook, mais on peut le mettre sur Amuse-Gueule. On demandera à Laurent, je suis sûre qu'elle connaît.
D'accord.
Donc, si vous voulez aller faire une comedy night show, il y a ça. Et,
il y a un 14 juillet quelque part aussi, j'ai vu.
Voilà.
Donc, renseignez-vous.
Voilà. Et, je me demande si la comedy night, c'est pas le 21 juin, du coup.
Peut-être.
Et puis il y a le French Festival, le Renault French Festival. Voilà.
Qui fait de la pub beaucoup sur Facebook. Donc,
voilà. C'est le chanteur ou la marque de voiture ?
Non, c'est la marque de voiture.
I wish. Je pense que si Renault venait en Nouvelle-Zélande, j'irais pas en Belgique. Pendant ce temps-là.
Voilà. Quelle musique tu as choisi, Alix ?
Alors, le premier, c'est un titre de Angèle, qui, j'ai appris ce soir que c'est une artiste belge.
Belge, oui.
Tout à fait. Et du coup...
C'est l'humeur du jour.
Ouais, c'est l'humeur du jour. Tu voulais écouter Flemme et je pense que ça s'y prête assez bien. Donc, on va écouter ça.
Une soirée pluvieuse, encore la flemme de bouger, la flemme de bouger. Ambiance canapé, télé jusque tard. Voilà, je suis dans un mauvais mood, on m'attend quelque part. Les rues s'allument, les gens sortent comme hier. Les filles sont belles, sous ce ciel couvert.
C'est un peu pop, hein, celle-là. Hein. Pop moderniste, un peu. Hein. Non, qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, là, en plus, elle est engagée quand même aussi.
Ah oui.
Donc,
c'est ça qui est bien.
C'est ça qui est bien.
Mmh. Et elle est engagée de manière intelligente.
Voilà.
Important aussi.
À pas confondre avec Adèle, comme on a fait depuis.
Oui, c'est vrai.
Non, Adèle raconte que ses histoires de cœur, non, je crois.
Oui, oui, mais c'est parce que j'ai... quand j'ai cherché sur Deezer, j'ai cherché Adèle au lieu de chercher Angèle. Et je me suis dit, ah non,
c'est
non,
pas
ça,
pareil.
Va pas, ça va pas.
Pas
ça va pas. Voilà.
Puis je crois pas qu'elle chante en français, Adèle.
Non, mais Angèle chante en anglais, par contre.
Oui, des fois. Alors, tu nous as ramené un gros bouquin.
Ouais, j'ai pensé à toi parce que je sais que t'aimes
que
pas les bouquins.
Je pense que Monsieur Sant, c'est le scénariste, encore comme d'habitude. Il fait beaucoup de scénarios, lui.
Il a pas fait le scénario de Blake et Mortimer.
Oui, il a fait deux maintenant, deux ou trois maintenant, les deux derniers ou les trois derniers.
En fait, il alterne avec Van Hamme.
Mais en fait, c'est lui qui il est. En fait, Sant, il triche un petit peu. Il est directeur. De Lombard. Donc en fait, c'est lui qui écrit parce que c'est lui le boss. Non, puis il a ça, donc il a sa position.
Mais en fait, il s'est mis à écrire après avoir été.
Bah non, il était déjà écrivain.
Mais pas de BD.
Le Lombard a dit attends, il y a plein de titres qui sont genre Blake et Mortimer, qui sont soit désuets, soit tombés un peu. Et comme il écrit beaucoup, et il peut écrire sur plein de thèmes quand même.
Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, il a pas vraiment de série à lui. Et en fait, tous ses premiers bouquins, c'est des séries qu'il a repris. Donc, il a repris 13, il a repris Blake et Mortimer. Et donc, en fait, les deux séries... Le Janitor, ça, c'est à lui.
Bah, des fois, il fait des one-shots où il fait des séries où il met d'autres gens qui l'aident.
Ouais, voilà. Et donc, il y a...
C'est pas lui qui avait fait le Décalogue ou en partie?
Non.
Je confonds peut-être.
Les cinq... dans le même genre que les décalogues, les cinq, je sais plus comment. Il faudrait que je regarde.
Ou les sept voleurs, ou les sept.
Voilà. Mais donc,
des séries.
Mais donc, en fait, il a pas fait beaucoup de séries à lui. Enfin,
il fait la trame principale et il lance d'autres scénaristes pour faire chaque album.
C'est souvent ça. Oui, avec donc pas les décalogues, mais l'autre qu'il a fait. Voilà. Il en a fait qu'une comme ça.
C'est ça.
Et puis, le Janitor, ça, c'est sa série à lui. Et alors ici, c'est un one shot. Et donc, mais alors c'est pas chez Lombard, c'est chez Dupuis, c'est Air Libre. Donc Air Libre, c'est une collection qu'ils ont lancée il y a quoi, peut-être 15 ans.
Oui, c'était Cosette qui avait commencé ça.
Ouais, et donc en fait c'est comme les signés du Lombard, donc c'est un peu la série, on va dire un peu chic, un peu intello de chez Dupuis. Enfin, il y a signé chez Lombard.
Ce sont des œuvres, c'est plus de l'œuvre BD que de la BD.
Voilà,
trafic,
c'est pas Boule et Bill en 48 pages où tu te l'avales en 20 minutes le dimanche matin quand t'as rien d'autre à faire. Donc,
certains, tu peux les appeler des romans graphiques ou est-ce qu'il y a une différence
entre
Ouais, et puis en général, c'est profond, il y a un message.
Il y a une grosse histoire derrière.
C'est fort, quoi, on va dire. Donc,
Et aussi, je crois que ça s'appelle Air Libre parce qu'il voulait laisser la carte blanche à l'auteur. Donc, Cosette, qui était le premier à faire Air Libre.
Ouais. Et donc, c'est pas c'est souvent pas des séries. C'est parfois deux tomes.
Deux tomes.
Ouais, mais c'est parce que Lombard, ils aiment bien garder le format 48 pages pour faire des sous, je pense. Mais bon, ça, c'est peut-être que je me trompe. Enfin, donc là, c'est pas 48 pages, c'est 169 pages.
Et c'est du gros format aussi, hein. C'est très large. C'est pas du A4, c'est beaucoup plus gros que du A4.
Ouais, c'est un petit
peu.
Donc
sur l'étagère, ça doit être assez embêtant, mais c'est pas grave.
Voilà.
C'est du beau.
Donc, je crois que j'ai toujours pas dit le titre.
On a toujours pas dit.
Donc, c'est Steve Cusor qui fait le dessin, Yves Sand qui fait le scénario.
Il est d'où, le monsieur Cusor? Je ne connais pas bien.
C'est deux Belges, en fait.
Ah.
Et en fait, donc, c'est marrant, ils sont tous les...
Yves Sand,
il est né le 17
deux,
janvier, et Steve Cusor, il est né le 21 janvier. Je trouvais ça sympa qu'il soit né à 4 jours d'intervalle. Enfin, pas la même année. C'est aussi que mon fils est né le 17 janvier, donc bon anniversaire, Victor, si tu m'écoutes. Mais en fait, Cusor, il a dessiné. Donc en fait, Cusor, c'est vrai que je connaissais pas non plus, mais du coup j'ai un peu regardé ce qu'il a dessiné. En fait, je pensais Quintet, c'est lui qui dessine.
Ah oui.
Voilà. Donc c'est toujours un peu noir ce qu'il dessine. Enfin, si je me souviens bien de Quintet, et il a dessiné un des 13 aussi, le 13 Mystery. Donc voilà. Donc c'est ça, je me suis trompée avec Yves Sant. Je pense pas que Yves Sant a fait des décalogues ou quoi. Enfin bon.
Je sais pas, je confonds peut-être, mais je vais regarder.
Donc, maintenant qu'on a parlé de tout et n'importe quoi, on va parler de la BD. 5 branches de coton noir, en fait, c'est d'actualité. Donc, l'histoire commence le 5 juin 1944 ou le 4 juin 1944. Et donc, c'est l'histoire de 3 noirs qui sont cantonnés à Calais dans un camp... pour faire semblant que le débarquement va se passer là-bas. Donc en gros, il se passe rien. En fait, il y a 95% de noirs, de soldats qui sont noirs dans cette base militaire, on va dire, mais qui est en fait un leurre, quoi. Donc et donc en fait, on se rend assez vite compte que les soldats noirs, en fait, ils ont envie d'aller se battre parce qu'ils ont ils ont envie d'avoir le droit d'être des héros comme les blancs. Et donc ça commence. Il y a 10 soldats blancs qui sont évidemment les lieutenants. Donc les officiers, il y a 10 officiers blancs dans cette base militaire. Tout le reste du contingent, c'est des noirs. Et donc il y a un des soldats qui écrit avec qui est en correspondance assez proche avec sa sœur, qui est une activiste pour le mouvement noir. Et en fait, elle retrouve un journal intime qui vient de d'une noire libre qui était la servante de la femme blanche qui a cousu le premier drapeau américain pour George Washington. Et donc en fait on passe d'une époque à l'autre. C'est tout le temps. Donc on voit ce qui se passe dans ce camp, dans cette base militaire à l'approche du débarquement et puis juste après le débarquement. Et puis on passe à l'époque, donc en 1766, donc à l'époque de l'indépendance des États-Unis. Et c'est la même chose. En fait, c'est le même problème, c'est que les Noirs à l'époque de l'indépendance de l'Amérique se rendent compte qu'ils font pas vraiment partie de l'Amérique, et tout comme les Noirs de l'armée américaine, ils ont pas le droit de se battre, ils ont pas le droit de devenir des héros. Donc de toute façon, quoi qu'ils fassent, ils font les marioles dans cette espèce de base factice où en fait ils transportent des tanks qui sont des ballons gonflables. Donc c'est comme ça que ça commence. Et donc en fait
c'est bien fait,
les transitions sont
bien faites.
Oui, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que donc en fait on suit le soldat noir qui est donc en France, et puis sa sœur qui trouve ce journal et qui lit ce journal. Et donc en fait on la voit qui est en train de lire le journal, et puis petit à petit on est
c'est son journal de guerre, alors au fond.
Non, elle retrouve le journal
de l'aïeul. D'accord.
Et donc on se retrouve transporté petit à petit vers le 200 ans avant. Et donc on passe comme ça de l'un à l'autre. Et donc
est-ce qu'il y a une transition graphique entre l'histoire américaine et l'histoire française?
Non, c'est
il y a pas de couleur, changement de couleur.
Non, c'est tout très sombre.
J'allais dire, c'est un peu comme l'un des 3 bouquins que j'ai amené, 4 bouquins. C'est assez c'est noir et blanc avec une couleur.
Voilà.
En plus, pour faire le.
Mais qui change.
Qui change, ça dépend des régulièrement.
Ça dépend si c'est, quand c'est la nuit, c'est bleu, puis c'est parfois ocre.
Voilà, c'est ça. Ou... Et j'ai la même fonction de dessin chez monsieur Truong pour mon bouquin sur une autre guerre.
Et donc, en fait, toute l'histoire est à propos de ce premier drapeau. Donc, en fait, la servante noire a 2 frères qui se font tuer. Qui se font assassiner, quoi. Et donc elle dit souvent c'est mes étoiles. Et en fait un des 2 petits frères, le plus petit des 2 frères, il avait entendu comment allait être le nouveau drapeau, et il dit ils ont mis des étoiles blanches parce que de toute façon on fera jamais partie de ce pays. Et donc en fait elle va en cachette coudre sous une des étoiles blanche, elle coud une étoile noire, de manière à ce que, en fait, si tu mets le drapeau en pleine lumière, tu vas voir cette ombre noire dans une des étoiles. Parce que, et donc, pour elle, c'est ce symbole de se dire, en fait, comme ça, il y a du noir dans une des étoiles, quoi.
On n'est pas nombreux, mais on est là.
Voilà, mais c'est aussi parce que, en fait, le drapeau, il est censé représenter les États. Donc, il y a 13 états au départ et ils ont prévu de la place pour tous les états, mais les étoiles sont blanches et donc pour eux, c'est, enfin pour le petit frère en question, c'est vraiment la seule chose qu'ils voient, c'est qu'ils n'ont pas mis de noir dans le drapeau, alors que eux aussi ils ont envie d'être libres, eux aussi ils ont envie de s'affranchir de l'Angleterre. Et en fait, et il dit, mais de toute façon, ça changera rien parce que si on se libère de l'Angleterre, nous, on sera toujours pas libérés de ce qui reste de l'esclavagisme. Eux, enfin, cette famille-là est déjà libre, mais il y a encore l'esclavagisme à ce moment-là, évidemment. Et donc, en fait, ils vont partir à. En fait, en lisant ce journal, elle se rend compte que peut-être. Donc elle est à l'université, elle est justement en histoire, elle va parler à son prof d'histoire et donc ils se rendent compte que peut-être le drapeau existe encore.
Est-ce que la frangine lit le bouquin a posteriori ou en même temps que cette idée? C'est en 1944 qu'elle lit, elle?
Elle le lit, oui.
En 44, elle est aussi en 44 la frangine, ouais, c'est pas après les années 50 ou 60.
Elle est aux États-Unis et elle envoie des lettres régulièrement à son frère et donc en fait... Ils se rendent compte, donc quelques jours après le débarquement, les Américains, ils n'ont plus assez de soldats. L'armée américaine voudrait envoyer plus de soldats et il y a des lieutenants qui ne veulent pas envoyer des Noirs parce qu'il n'y a pas de raison.
Ils n'ont pas confiance.
Mais c'est surtout qu'en plus, ils ne veulent pas que ce soit des héros. Enfin, il y a certains héros, lieutenants qui ne veulent vraiment pas. Enfin, il y en a un qui dit à un moment donné, il ne faudrait pas qu'ils réclament une médaille après. Donc, en faisant un peu de recherche, ils se disent qu'il y a peut-être une chance que ce drapeau en fait soit en Allemagne. Et donc en fait, elle manigance
le premier drapeau de la Confédération. Voilà. Et donc,
mais c'est surtout, ils veulent retrouver le drapeau avec l'étoile noire comme étant un symbole. Et donc elle manigance pour que son frère puisse aller chercher ce drapeau. Donc il part à la recherche de ce drapeau.
Je vois, t'es ouvert à la page, t'es un peu au milieu du bouquin. Il y a de la très belle calligraphie là. C'est qui le lettreur ou la lettrice, la lettreuse?
Ah, je ne sais plus. En fait, la calligraphie, donc ça, c'est
joliment écrit. Hein, j'aime beaucoup leurs lettres.
Mais ça, quand c'est écrit comme ça, c'est justement le journal intime en fait. Quand
mais
c'est écrit
quand
à la main.
Dans les pulls, c'est beau, hein.
Ah, ça, oui.
Ouais.
Alors, je ne sais pas du tout qui c'est qui a écrit.
Le travail de lettrage a l'air assez formidable quand même. Couleur, mais ils disent pas, peut-être en page 3, page 5, je veux dire.
Mais sinon, c'est peut-être bien.
Bon, alors, le truc sur le lettrage, c'est pas forcément radiophonique, mais par contre, le bruit des pages qui tournent, c'est très
agréable. C'est beau. Hein.
Ouais, c'est magnifique.
Bah non, il n'y a pas. Peut-être que c'est Yves Sand qui a tout écrit. Je ne sais pas, d'habitude, ils mettent s'il y a. Ou même peut-être en fin de tome.
Je ne sais pas. Non, je n'ai pas l'impression.
Non. Waouh. Donc, ce serait Yves Sand qui aurait tout écrit.
Voilà, a priori.
Bah, il a une belle tournure de main.
Ouais, non, c'est vrai que c'est joli. C'est très prenant.
Bah, puis c'est long, donc.
Oui, et puis.
Est-ce que c'est bon? C'est long, mais c'est bon?
Ouais, c'est long, mais c'est bon. Non, c'est vraiment. C'est intense, quoi. C'est une histoire, c'est un roman policier, c'est engagé, c'est.
Et on dit pas la fin parce que on dit pas s'ils vont trouver le drapeau ou pas.
Voilà, ouais. Ils ont qu'à lire.
C'est combien de pages?
Mais j'ai dit 169.
Mais c'est pour répéter. Et c'est combien d'euros ou de dinars environ ça? Tu te rappelles ou pas où c'est marqué quelque part?
Aucune idée, mais je dirais 25 dollars. 25 euros, pardon.
25 euros.
Ouais, je pense que c'est 25 euros. Ouais. Donc, voilà. Et enfin, mais en fait, je me faisais la réflexion en venant, c'est que la BD par rapport à quand j'étais petite, elle a quand même vachement évolué. Quoi.
Ah bah oui.
Parce que.
Bah c'était un peu Tintin, Milou et Astérix quand on dans les années 70 encore. Hein.
Ouais.
Puis Lucky Luke et puis enfin c'était.
Et puis les comics. Enfin,
oui,
sujet,
mais oui, la BD.
Ouais, tandis que maintenant, il y a de plus en plus de romans graphiques et en fait, il y a même, enfin, il y a des scénaristes de BD qui font les deux, quoi, qui font le côté grand public et puis qui. Mais en fait, c'est vrai. Je me disais,
il a fait 13, il a fait Torgal, il a fait Blake et Mortimer, donc il reprend toutes les grandes BD des années 50, 60, 70. Mais il sait faire des one-shots.
13, c'est années 80.
Au 80, mais, bah oui, mais Torgal, c'est fin 70, début 80. Black et Mortimer, c'est définitivement 50-60, 70, ouais. Ouais. Donc ouais. J'imagine que...
Mais je me faisais l'analogie, c'est un peu comme la Golf de Veyway, en fait.
Ouais.
Ben oui, c'est que en fait la Golf au départ c'était la plus petite voiture des VW, ouais. Et puis elle a évolué avec. Alors ils ont dû faire l'Apollo pour les jeunes qui avaient moins de sous, et puis maintenant ils ont fait la Lupo.
Encore plus petit,
ouais. Donc en fait ça grandit avec nous les grands enfants qui continuent à lire des BD.
Alors pour ceux qui voulaient savoir, le Décalogue c'est pas du tout par Yves Sant, il a peut-être fait un des 10 albums, c'est par Franck Giroux.
Oui.
C'est Giroux qui est aussi un spécialiste de reprendre des.
Voilà. Giroux, mais d'ailleurs ils ont repris
ils ont dû reprendre un truc ensemble, c'est pour
ils
ça
ont,
que je
ils
me
ont
dis.
Travaillé ensemble sur certains c'est le même
mais je me rappelle pas quoi, donc c'est pour ça que je cherchais, mais
c'est pas grave.
Voilà, mais Giroux aussi hein, c'est un auteur que j'aime beaucoup,
mais il écrit beaucoup. Il y a des critiques quand même de Giroux et de Sant, du côté critique c'est-à-dire que ils reprennent beaucoup de choses déjà faites pour Sant, et puis pour Giroux, des fois, il fait des flops parce qu'il écrit tout et n'importe quoi. Donc, dans tout, c'est bien, mais dans n'importe quoi, il y a n'importe quoi.
Mais donc là, honnêtement, pour une fois, c'est Sant
qui. C'est du bon.
C'est lui qui fait tout seul. Enfin, c'est son one-shot. C'est son idée. Il a pas repris une série. Et moi, je trouve que c'est assez.
Est-ce que c'est sa meilleure BD pour toi?
Ben oui. Parce que, enfin, moi, très, je suis pas. Enfin, très. 13, j'avais déjà arrêté de lire quand c'est lui qui a repris, en fait.
D'accord.
Je trouve que c'est trop. Enfin, c'est tirant en longueur, c'est commercial, c'est long. Mm-hmm. Et puis à la fin, je me perds, moi. Quand il y a trop de personnages qui se ressemblent.
Moi, je me dis que les 5 premiers, c'est quand même les meilleurs.
Ouais, mais. Et après,
de
moi,
1 à 5, et après, ils m'ont perdu.
Après, ben moi, je me suis perdue avec tous les personnages. Et puis, en fait, les séries, quand ça met tellement longtemps, en fait, quand t'arrives à lire le 25e, et c'est pas comme les Astérix, il y a tellement de. Les Astérix,
c'est un one-shot à chaque fois,
voilà,
en fait.
Voilà. Tandis que 13, si tu lis le 25e, il faut que tu te souviennes le premier, oui. Mais qui est sorti il y a 10 ans.
Surtout avec les mysteries maintenant, parce que voilà. si tu lis un mystère, si t'as pas lu les premiers, tu te dis, il vient d'où ce personnage?
Voilà.
Enfin bon.
Et
c'est peut-être fait exprès.
Relire les BD, c'est... Donc moi,
je relis beaucoup mes BD.
Mmh. Ouais,
mais celle que j'aime.
Ouais, mais les one-shots, quoi. Et en fait, j'aime de plus en plus les one-shots ou 2-3... 5-6 tomes maximum, quoi.
Ou moi j'achète les intégrales toutes faites.
Ouais.
Donc il y a 5 tomes. Je viens d'acheter tous les blueberries. C'est le Lombard, je sais pas quoi. Ils ont fait les gros pavés comme
nous,
ça.
Nous on en est au stade, on achète les Benoît Brisefer en intégrale pour nos enfants.
Bah oui, parce que sinon, le problème c'est la bibliothèque est trop petite. Au bout d'un moment.
Ça y est, ça déborde. Mmh.
Ça déborde, donc tous les blueberries, j'en avais 3 ou 4 des albums singles. Et puis au fur et à mesure, je me dis, je vais pas me les acheter tous parce que sinon ça va prendre 3 mètres de long.
Tu veux reconstituer le dessin sur la tranche.
Oui,
donc il faut tous les avoir.
Oui, mais
c'est ça, mais en fait, moi, j'ai pas acheté les intégrales parce qu'alors
moins
de couverture.
J'ai moins de couverture. Mais au niveau place, c'est mieux. J'ai tous mes blueberries qui tiennent sur 25 cm.
Ouais. Moi, il y a un truc que je trouve qui est un peu dommage, c'est la couverture. Elle est un peu noire et je suis pas sûre qu'elle ressorte bien, je trouve.
Je trouve qu'elle a de la gueule.
Ouais.
C'est un bichrome, hein, c'est bon.
Ouais,
à dire,
c'est fond
vous
vert.
Pouvez pas, c'est fond vert, kaki. Mais c'est du noir et blanc avec un gros fond vert.
Voilà, mais donc.
Donc c'est du bichrome, mais j'aime bien la tête du monsieur. C'est un GI de profil. On peut vraiment deviner. Il y a les grosses lèvres, le nez fourchu. Il est africain, afro-américain.
Voilà.
Mais j'aime bien. Ça voilà. Fait plus d'ailleurs vietnamien que 39-45, je trouve. Mais au niveau, si tu sais pas l'époque, ça me fait penser plus au Vietnam que.
Je suis pas une spécialiste des habillements américains pendant la guerre.
C'est
on s'écoute.
Une petite musique. Vous avez choisi quoi, les filles?
C'était ta requête, Fred. Donc dis-nous.
Belgique, Afrique. Je trouve que ça va bien.
Ouais, voilà. Ça va très bien.
En plus, ça parle de Théo Franken qui a. On va pas parler des élections européennes, sinon la tension sanguine va monter.
Merci.
Allez,
Fred.
On y va.
tellement fier d'être belge, même si j'ai honte de nos ancêtres. Assez du passé, vive notre économie, on n'en serait pas là sans les colonies. Et même si je suis vraiment fier d'être belge, j'ai quand même honte de ce qu'on enseigne. Théo Franken, Théo Franken. L'Europe c'est l'Afrique, j'ai vu ça moi-même, personne nous l'a appris. Non. L'Europe c'est les colonies, un grand-père trop gourmand qui voulait plus tout le temps, qu'on oublie trop souvent de citer à l'école. Même si c'était une autre mentalité à l'époque. Ouais. Pourquoi c'est compliqué d'expliquer à mes potes que mon grand-père a bossé pour la Belgique. Pourquoi? Et que c'est la Belgique qui a appliqué la méthode. Je l'aime, c'est mon ancien, il avait juste un taf au Congo, en soi c'était un bon gars. La famille, c'est plus l'état belge qui me fait honte, car il nie autant l'excuse que je fais de ton cas. Et quoi? Qu'est-ce que ça coûte de dire pardon et merci? On écoute le patron, on attend le Messi. On a les mains sales même si on fait la vaisselle. Le goût de la douleur ça part pas avec du persil. Une société malade, les anciens n'assument pas leur passage. Les photos du Congo belge de mon grand-père me mettent mal à l'aise même si c'est pas moi. À l'école on me parlait pas trop de ses affaires, c'était plus en privé, comme si ça faisait pas partie du passé. Fier d'être belge, même si j'ai honte de nos ancêtres. Assez du passé, vive notre économie. On n'en serait pas là sans les colonies. Et même si je suis vraiment fier d'être belge, j'ai quand même honte de ce qu'on enseigne. Théo Franken,
Théo Franken,
Théo Franken. Aujourd'hui, 2019, Théo Franken est populaire, beaucoup trop populaire. Les gens veulent clôturer. Les gens pensent que l'immigration prendra fin alors que ça va encore durer. Les gens pensent que le problème c'est les autres et ses souffles à protéger quelque chose qui n'existe pas. Comme des souvenirs objectifs du Congo. Comme reconnaître qu'on aime trop le contrôle. J'ai honte d'être belge quand je vois des jeunes entonner des chants racistes pendant un festival. Quand je vois l'accueil réservé aux migrants et quand je vois le discours mal caché de la NVA. Nos racines génocidaires devraient nous servir de rappel. On est qui pour oser vouloir fermer la porte? Ouais c'est la merde, tu d'accord? Et alors c'est comme ça qu'on finit par voter pour un homme. Fier d'être belge, même si j'ai honte de nos ancêtres. Assez du passé, vive notre économie. On n'en serait pas là sans les colonies. Et même si je suis vraiment fier d'être belge, j'ai quand même honte de ce qu'on enseigne. Théo Franken, Théo Franken. D'être belge.
Elle est belle la Belgique.
Je suis vraiment fier d'être belge.
Un si petit pays.
Vraiment fier d'être belge.
Tant de richesse.
Je suis vraiment fier d'être belge.
T'es de notre gueule ou quoi là?
Vraiment fier d'être belge.
Pourquoi on parle jamais
du passé? Je suis vraiment fier d'être belge.
Va falloir s'excuser
vraiment
maintenant.
Vraiment fier d'être belge.
Va falloir avancer maintenant.
Vraiment fier d'être belge.
Voilà, voilà, c'était Belgique Afrique de Elvis Romero, c'est ça?
C'est ça. Qui est donc le petit frère ou grand frère, on ne sait pas.
C'est de la famille, quoi.
Voilà, mais ils sont tous exactement artistes dans la famille, ils sont tous connus. La maman, c'est Laurence Bibot, c'est Miss Bricolard. Je l'ai déjà dit à l'antenne.
D'une guerre à l'autre.
Vas-y.
Alors, des livres que j'ai piochés à la bibliothèque d'Auckland, donc ce sont des livres d'abord en français, écrits en français, ça peut être écrit, ben là, Marcelino Truong, il est de papa vietnamien, de maman de Saint-Malo, je crois. Donc Malouen, mais l'autre c'est Killing Velasquez en anglais, en français c'est Tuer Velasquez, c'est par Philippe Girard qui est un Québécois, etc., etc. Donc on trouve pas mal de bouquins, donc de BD franco-belge, des one shot, des qui étaient des séries mais qui ont été mis en one shot ou en intégrale pour vendre ici ou pour acheter ici ou pour
ça
lire
c'est l'avantage des traductions, c'est qu'en général ils traduisent.
Oui, ils s'embutent pas. C'est comme le Autour du monde en 80 jours, donc de Jules Verne mais en BD, adapté par deux Français, Dauvilliers Solélac.
C'est quoi le titre en français de Such a Lovely
Little War? Such a Lovely Little War, c'est Une si jolie petite guerre. Donc c'est vraiment la traduction mot pour mot. Donc Une si jolie petite guerre, ça a un sous-titre et le sous-titre c'est Saigon 1961-63. Alors qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors d'une part, c'est un gros bouquin aussi, 275 pages. Je ne connais pas le prix puisque c'est acheté en anglais, c'est à la bibliothèque donc je ne l'ai pas acheté. Il faudra que je le retrouve. C'est une biographie. Ça raconte les histoires du petit Marcelino, qui s'appelle Marco pour son petit nom, son frangin l'appelle Marco. Et il a un grand frangin qui l'appelle Domi, donc j'imagine que c'est de court pour Dominique. Il a une grande sœur qui s'appelle Mireille, c'est l'aînée. Et pendant les années 61-63, ils sont à Saigon, comme le sous-titre l'indique. Et ce qui se passe, c'est que son papa donc, est né au Vietnam, et son papa, il est diplomate, écrivain, journaliste, il fait un peu de tout, mais surtout côté diplomate, il est posté à Washington. Donc on les voit au départ, en 61, ils sont à Washington, à l'ambassade du Vietnam. Et comme la guerre éclate, tout ça, il y a un président du Vietnam. C'est un peu comme en 61, c'est comme la Corée du Sud, Corée du Nord. Il y a le Vietnam du Nord, Vietnam du Sud. Et donc le Vietnam du Nord, c'est les communistes alliés aux Chinois. Le Vietnam du Sud, c'est allié aux Ricains. Bah, c'était allié aux Français, mais les Français, ils ont perdu la guerre du Vietnam, donc ils se sont barrés. Donc là, c'est les Ricains qui arrivent en 61, qui prêtent main forte. Au départ, c'était pour une mission. On va éduquer les petits Vietnamiens à faire la guerre mieux, c'est-à-dire qu'on leur vend des armes et puis on a des instructeurs. Hein. C'est le départ de la guerre du Vietnam américaine, pas française, c'était avant. Et ce qui se passe, c'est que donc ce président, c'est un peu un dictateur quand même, de droite, mais bon, un dictateur, pour comparer à la dictature communiste dans le Nord. Donc il y a plein d'histoires. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a plein de choses. Donc ça se passe, ça part de Washington, États-Unis, ça va au Vietnam, ça arrive à Saint-Malo, ça parle de l'Angleterre parce que leur papa était aussi en poste à Londres, eux aussi, les enfants. Donc les enfants sont trilingues, anglais, français, vietnamien. Donc ça raconte la vie d'une famille franco-vietnamienne. Donc c'est quatre enfants, puisqu'il y a une petite sœur qui naît entre-temps, entre 61 et 63. Donc il y aura deux filles, deux garçons. Les deux garçons sont au milieu. Ça raconte l'histoire des deux garçons qui jouent, qui vont à l'école, qui font des bêtises. C'est assez brutal d'ailleurs. C'est candide, mais c'est l'enfance. Est-ce que c'est la guerre ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est l'enfance. Il tue beaucoup d'animaux. C'est-à-dire que...
Comment ça, le héros ?
Oui. L'enfant, avec son frangin, ils font exploser des lézards, ils tirent sur des oiseaux. C'est un peu cruel comme enfance. Mais en même temps, c'est en temps de guerre, donc tu te dis peut-être qu'il...
Mais est-ce que c'était pour se nourrir, pour s'amuser ?
Non, c'est pour s'amuser, c'est des petits garçons qui
À l'époque, c'était...
C'est ça, c'est l'époque, c'est les années 60, et donc tu fais...
Moi, j'avais des copains qui faisaient des parachutes avec les chats.
Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est l'époque...
Jamais fait.
Moi non plus, mais disons que
ma tête doit être collector là. Je suis choquée.
J'ai bien vu ta tête.
Donc Marcelino Truong.
C'est comme dans la chanson de Brel. Hein.
C'est le dessinateur et le scénariste. Il part de son histoire à lui. Et ce qui l'aide à raconter son histoire, c'est il écrit ça en 2011. C'est un bouquin de 2011-2012. En 2012, son papa décède. Donc il a encore des interviews. Donc les 10 dernières pages, c'est avec ses parents, c'est les temps modernes. Donc en 2011, et ils sont à Saint-Malo là, toute la famille. Lui donc, Marcelino, il est auteur de BD et journaliste, et donc il raconte son histoire personnelle, familiale. Et il y a beaucoup de niveaux. C'est donc 275 pages, plusieurs histoires.
C'est lui qui a fait la traduction ou pas? Parce que tu dis
non, c'est pas lui qui a fait la traduction. La traduction du français à l'anglais, c'est quelqu'un d'autre. Et puis, donc ça se passe les trois quarts du livre, c'est quand même à Saigon, pendant ces 2 ans-là. Et Truong, il a utilisé les couleurs d'une manière, c'est pareil, c'est du noir et blanc, avec un fond, soit ocre, soit bleu. Il y a de la couleur, il y a du tricolore aussi, il y a trois couleurs plus noir et blanc.
Mais
c'est surtout,
hein.
Oui, c'est très stéréotypé, c'est moins moins réaliste que ta BD à toi. C'est pas de la caricature, non. Mais c'est stéréotypé. Et
mais c'est au feutre, donc.
À l'encre noire, je sais pas. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces gros paysages ou ces têtes de chapitre, c'est souvent la gare de Saigon ou c'est tout en couleur. Là, c'est la trichromie, c'est souvent en double page, et là, c'est la pleine couleur. Donc, du bleu, du vert, du rouge, du jaune, tout ça. Mais tout le reste de l'album, c'est vraiment du noir et blanc avec une couleur seulement. Un fond ocre ou un fond bleu, souvent. Enfin bon, c'est un choix de style.
C'est très différent de l'autre.
Oui. La guerre est vécue plutôt... Là, c'est un bouquin politique. Il faut dire que c'est vraiment communiste contre la droite dictatoriale du Sud, donc c'est le Nord contre le Sud, les paysans contre les gens de la ville, les gens éduqués contre les, toujours les paysans, etc. etc. Donc il y a une position très claire du dessinateur, du scénariste-dessinateur, et de sa famille, en fait. Donc son père, il représente le président. C'est-à-dire que son père est rappelé à Saigon en 61 de Washington pour écrire le journal du Sud, en fait, pour tenir l'agence principale de médias et de presse de l'État du Sud. Donc c'est quand même un grand rôle. Il devient directeur de l'agence presse du Sud. Donc il est en ligne directe avec le président, sa femme, qui est... C'est la Marie-Antoinette de l'époque, de là, donc elle est assez détestée. C'est un peu comme la femme de Mao Tse-tung en Chine, c'est-à-dire que elle se fait des statues, elle organise des événements pour elle, elle s'habille bien.
La femme du président.
La femme du président.
Ah ouais, ok, pas
la femme du papa. Donc il y a l'histoire politique, l'histoire sociale du Vietnam, l'histoire politique national, donc le Nord contre le Sud, les paysans contre les intellectuels, et l'histoire mondiale, c'est-à-dire la position de la France, la position des États-Unis, puisque lui a été quand même diplomate à Washington, tout ça.
Comment il a rencontré la française?
Je me rappelle plus. C'est pas dit dans l'album. C'est dit
en fin de note,
etc. Je crois que c'était pendant qu'ils étaient à Londres, mais je dis peut-être une bêtise. Mais ce qu'il y a pour moi assez intéressant, le côté familial, c'est qu'il y a aussi sa mère tombe folle, en fait, pendant la guerre. Et en fait, elle tombe pas folle, c'est une condition qui s'appelle, en anglais, donc je vais traduire, elle est manique-dépressive. C'est-à-dire que donc elle fait des
maniaco-dépressive,
donc elle fait des épisodes de haut, de bas, de moyen, de calme et de complètement... Il y a un côté, donc elle a quatre enfants, donc il y a des nounous, il y a des gens pour l'aider, mais son mari est tout le temps barré, puisqu'il est diplomate, et en même temps, elle est dans une situation de guerre, parce que Saigon 61-63, c'est pas encore la pleine guerre, c'est les années Kennedy, c'est pas les années juste après Johnson.
Ouais.
Et c'est pas Nixon, donc c'est les Américains sont encore très peu là, ils sont là, mais ils sont pas des millions. Ils sont juste, comme je dis, observateurs.
Ils n'ont pas encore commis trop d'atrocités.
Non, pas trop. Ils leur vendent des armes et ils les éduquent pour faire la guerre. Ouais. Mais ils sont sur le terrain quand même. Donc, il y a des attentats, il y a des bombes. C'est un peu genre Paris 2016. C'est-à-dire que il y a des bombes de temps en temps, il y a des attentats, il y a des gens qui se font sauter, etc., etc. C'est un peu côté terroriste, mais c'est pas encore la guerre à Saigon. Mais ce qui fait qu'elle est traumatisée, donc ces épisodes maniaco-dépressifs commencent là. Donc c'est une maladie, hein, c'est une condition qu'elle avait sûrement avant, mais ça s'était jamais déclenché. Mmh. C'est déclenché par le stress de la guerre. Donc c'est assez important puisqu'il y a plusieurs épisodes dans, et même il y a deux pages complètement consacrées à ça. La page 135, j'ai même fait une note où il raconte comment les épisodes de sa maman font que sa vie à Saigon et sa vie plus tard avant sont des hauts et des bas, parce que si maman pète un plomb, tout le monde sort, tout le monde s'en va, donc les enfants sont tout seuls dans leur chambre, etc., etc. Donc ça change la dynamique de la vie familiale. On voit aussi la vie familiale par rapport au père, donc il rentre du boulot, il a discuté toute la journée avec le président, et il écrit ses articles. C'est de la propagande sans en être. Pour moi, c'est très 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 intéressant, parce que c'est la presse libre. Donc eux, ils reçoivent les Américains ou les Français, par exemple, puisque l'autre côté, c'est communiste. Donc les communistes, c'est de la propagande, ok, on est tous d'accord. Mais comme c'est la presse libre, les Américains y arrivent et puis ils écrivent librement. Donc le président du Sud est tenaillé, donc lui aussi, comme il est chargé de la presse et tout ça, et il dit oui, mais on est une presse libre et on est un parti de droite, on n'est pas communiste, donc on peut pas interdire la presse libre, sinon on devient une dictature. Mais en fait, c'est assez rigolo, c'est-à-dire que ils se font un desservice, c'est-à-dire que tout l'album est sur aussi le rôle de la presse libre dans un pays qui essaie de combattre une presse non libre. Et ça, pour moi, c'est très, très... c'est un sujet très fort. J'ai fait mes études de journalisme il y a 30 ans à Paris. En fait, c'est assez rigolo. C'est que pour combattre la presse non libre communiste ou dictatoriale ou propagandiste, il faudrait presque une autre presse propagandiste. C'est-à-dire que la presse libre fait beaucoup de mal. C'est-à-dire que les Américains arrivent avec la caméra, parce que c'est le début de la télé aussi, couleur qui commence. Les Français arrivent aussi. Et toute la presse mondiale relaie les atrocités qui se passent.
Mais c'est exactement le problème qu'ils ont eu pendant Brexit quand ils ont raconté leur histoire de 350 millions. Donc, t'as d'un côté, des gens qui mentent, qui mettent 350 millions sur un bus, et l'expliquer de manière, la vérité, c'est chiant, c'est barbant,
personne ne lit.
C'est pas journalistique, et personne ne lit. Parce que si tu commences à sortir tes références, qui viennent de la Cour des comptes et tout, c'est chiant. Et tandis qu'un beau bus rouge qui se pavane, et où personne ne peut vérifier ce qu'il raconte. Enfin, sauf si tu googles, mais bon.
Mais là, c'est la guerre. Donc, ce que les Américains ou les Français photographient, c'est des gens qui se font exploser. Donc, quand on regarde Libération, Le Monde ou n'importe quel journal, Le Figaro, ou quand on regarde le Washington Post ou le New York Times, on a en une un petit bébé éclaté à Saigon. Et on dit, parce que la guerre est moche. Donc, le côté politique, social, du changement, du reste du monde libre, par rapport à la guerre du Vietnam, se fait indépendamment d'un président qui dit oui, on est un pays démocratique, on est libre, oui, on est de droite parce qu'on est contre les communistes, on veut pas que les communistes gagnent, c'est des pourris, c'est des salauds, machin, tout ça, mais en même temps on veut que tout reste libre, on veut être quand même éduqué, démocratique, etc., etc. Et en fait ils payent les pots de leur propre liberté, c'est-à-dire que lui il va se faire, il y aura un putsch. Le président va se faire trucider, je crois. Et puis, donc, ça se finit mal, en fait. Mais ce qui montre que c'est difficile de combattre des presses non libres. C'est assez difficile, c'est virtuellement impossible, puisque le fait est d'une presse libre veut que tu rapportes tout, dont les mauvaises choses. Mais ça se retourne contre toi parce que les communistes, c'est ce que son père a beaucoup de bonnes phrases. Il interviewe son père quand il est jeune, mais aussi à la fin, dans les années 2010. Et il dit, mais oui, mais nous, on combattait pas avec un idéal. Les communistes gagnaient tout le temps parce qu'ils proposaient les paysans devenir riches, les paysans avoir leurs terres, ce qu'ils ont jamais eu, c'était des mensonges, c'est la propagande. Mais le fait est que le rêve faisait partie des communistes. Les gens libres ne faisaient pas rêver.
Oui, et psychologiquement parlant, il y a plein d'études qui montrent que quand tu as une opinion très tranchée, qu'elle soit vraie ou pas vraie, tu parais plus digne de confiance.
Mais c'est comme quand tu regardes... Enfin, moi, un de mes pires souvenirs, c'est quand Jospin a perdu les élections. Parce que t'avais... C'était le seul qui avait un programme...
Mais il faisait pas rêver, lui.
Ben, il avait un programme raisonnable, mais il était chiant à écouter.
Il était chiant,
quoi. Ouais. Franchement, enfin, je veux dire, il vendait pas du rêve. Hein. Enfin, t'avais un guignol d'un côté et un... Allez... Et l'autre, enfin,
l'espoir et le rêve fait voter, ou fait gagner le.
Non, et puis, Chirac, il racontait n'importe quoi, il savait pas ce qu'il dit, manger des pommes, quoi. Mais il était
ça
drôle.
Ça marche, les pommes,
il était drôle. Et l'autre, Jospin, il était du genre à te sortir son cahier des comptes et son budget en disant, ce sera pas possible. Ouais. Mais du coup, c'est pas drôle, quoi.
Enfin bon. Tout ça pour dire, je trouve que c'est un gros album qui se lit très très bien.
Moi, je vais me l'acheter, mais en français.
Je pense que je vais me l'acheter en français maintenant aussi et le garder.
Peut-être qu'on devrait mettre en place un service de location de BD.
Oui, on va se les prêter. Mais.
Pour
moi, c'est du 5 sur 5. Il y a tellement de profondeur dessus, tellement de niveaux. Comme je dis, moi, ce qui m'a passionné, c'est le côté politique et social de ces années-là, le côté mondial de la politique et le côté juste local de la politique locale. Mais il y a beaucoup de niveaux. Comme je dis, il y a le traitement de la folie, le traitement de la famille, le traitement du boulot de diplomate, etc. Donc, il y a beaucoup d'histoires. La France, les États-Unis.
Je trouve que pour reprendre l'histoire, ce genre de bouquin. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à retenir le nom des présidents dans l'ordre ou des choses comme ça. Mais une fois que j'ai lu une histoire comme ça, en général.
Ah, je me souviens toujours pas du nom du président.
Bah, un exemple peut-être un peu plus mainstream, mais aussi, comme tu disais, d'histoire que tu retiens, c'est Persepolis. Est-ce que vous l'avez lu?
Ouais, ouais.
Moi, je savais rien de la révolution culturelle en Iran avant de lire cette BD. Et honnêtement, c'est une mine de savoir, finalement.
Et après,
le résultat, on sait surtout Ayatollah Khomeini. Mais on ne sait pas vraiment les années juste avant.
Mais aussi, c'est de se rendre compte de ce que c'est de vivre. Enfin,
oui,
de,
au jour
parce
le
que,
jour.
Parce que quand tu apprends l'histoire à l'école, c'est très sec, quoi.
Oui.
Et du coup, ben, tu ne comprends pas ce que c'est d'être...
Alors que là, ils vivent la guerre. Ils sont dans un appartement et puis tu as des C-8 ou des C-10 américains qui arrivent et qui commencent à faire boum, 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 boum. Puis t'as le...
Et ce que j'adore dans la BD par rapport au livre, c'est que comme il y a moins de mots et il y a parfois juste une image, en fait, ça te...
C'est le choc des images, comme
non,
Paris Match.
Non, c'est que tu prends plus le temps de... d'essayer de t'imaginer toi dans parce que c'est moins descriptif quoi donc tu dois prendre un peu plus le temps de t'imaginer ce qui n'est pas dit par les mots qui est juste une image et enfin donc du coup moi je trouve tu dois un petit peu plus t'imaginer et donc ça te permet d'être plus dedans et c'est vrai Persepolis j'ai adoré mais elle en a fait d'autres hein.
Oui,
ah
elle
bon
a fait, elle
ouais,
a fait
ouais,
un numéro 2,
à la maison,
etc.
etc.
Ouais.
Ah bah oui,
j'en
avec plaisir.
Il y en a un qui s'appelle Machin aux prunes. Il y en a un avec sa grand-mère, je crois, qui est très sympa, qui est très drôle.
Bon, voilà, on se parle à la fin de l'émission.
C'est une bonne... elle écrit bien aussi.
Ouais, ouais, elle
c'est bien écrit aussi. Il y a du texte dedans, c'est de la BD, mais il y a beaucoup de textes. Historiques, machin. Et ce qu'il utilise, j'ai bien aimé, il redessine... par exemple, des timbres, je viens d'ouvrir la page 152, des timbres de l'époque. Donc, il dessine le timbre de l'époque. C'est assez rigolo. Parce qu'en fait, il se sert, pour raconter l'histoire, il se sert des lettres de sa maman qui écrivait à ses grands-parents. Donc, il a retrouvé les lettres de sa maman dans les années 2010, où sa maman lui a donné, ou ses grands-parents. Donc, il utilise les lettres de sa mère et il les montre, en fait, il montre les lettres de sa mère ou des passages des lettres de sa mère. Où il dit, bah, tu vois, maman, elle écrivait un peu sobre, quoi. C'est du genre, oui, aujourd'hui, il y a eu une petite attaque, mais en fait, il se souvient de l'attaque et c'était des grosses explosions dans la rue, quoi, à 5 mètres.
Ouais, mais
mais c'est sa mère, parce qu'elle écrivait à Saint-Malo, elle voulait pas que ses grands-parents.
On va dire, la maison d'à côté a été détruite.
Voilà, c'est
mais
ça.
Mais nous, ça va encore, voilà. On a encore un toit.
Donc, elle minimise beaucoup pour épargner les gens qui restent en France. Et ses dessins, lui, donc il a 7-10 ans, et il dessinait déjà. Et donc, il repasse quelques-uns de ses dessins, les tanks, la guerre, les avions, tout ça. Donc, c'est assez rigolo. Il utilise ses propres mémoires à lui, c'était le dessin, ou la mémoire de sa maman.
C'est marrant comme la
lettres.
Plupart des auteurs de BD, ils ont toujours dessiné.
C'est peut-être pour ça qu'ils vont dessiner plus tard. Enfin bon, je conseille ça. Pour moi, c'est du 5 sur 5, ou 10 sur 10, c'est du très bon. Le dessin, c'est pas mes dessins préférés, mais ça passe, c'est assez descriptif quand même. C'est pas du réalisme, mais c'est descriptif, donc ça passe. Enfin voilà. On se passe une petite musique, on avait choisi quoi?
Oui, tu voulais écouter Rencontre de Grand Corps Malade.
Merci.
Donc ça me semble être une très bonne
c'est
idée.
C'est spécial dédicace à Elisabeth alors.
Oui, et puis Yvan, il aime bien aussi, je crois, Grand Corps Malade.
Bon allez, on écoute alors.
C'était sur une grande route, je marchais là depuis des jours, voire des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient, un chemin un peu bizarre, un peu tordu, comme la vie. Évidemment, j'étais pas tout seul, j'avais envie de faire connaissance. Il y avait un tas de personnes et personne marchait dans le même sens. Alors je continuais tout droit, mais un doute s'était installé. Je savais pas ce que je foutais là, encore moins où je devais aller. Mais en chemin, au fil du temps, j'ai fait des sacrées rencontres. Des trucs impressionnants, faut absolument que je vous raconte. Ces personnages que j'ai croisés, c'est pas vraiment des êtres humains. Tu peux parler avec eux, mais jamais leur serrer la main. Tout d'abord, sur mon parcours, j'ai rencontré l'innocence. Un être doux, très gentil, mais qui manque un peu d'expérience. On a marché un petit moment, moins longtemps que ce que j'aurais cru. J'ai rencontré d'autres éléments et l'innocence a disparu. À un moment sur mon chemin, j'ai rencontré le sport. Un mec physique, un peu grande gueule, mais auprès de qui tu deviens fort. Pour des raisons techniques, on a dû se quitter, c'était dur. Mais finalement, c'est bien comme ça, pile sport, ça donne des courbatures. J'ai rencontré la poésie, elle avait un air bien prétentieux. Elle prétendait qu'avec les mots, on pouvait traverser les cieux. Je lui ai dit, je t'ai déjà croisé, et franchement, tu vaux pas le coup. On m'a parlé de toi à l'école, et t'avais l'air vraiment relou. Mais la poésie a insisté, et m'a rattrapé sous d'autres formes. J'ai compris qu'elle était cool, et qu'on pouvait braver ses normes. Je lui ai demandé, tu penses qu'on peut vivre ensemble, je crois que je suis accro. Elle m'a dit, t'inquiète, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Puis j'ai rencontré la détresse, et franchement, elle m'a saoulé. On a discuté vite fait, mais rapidement, je l'ai refoulé. Elle a plein de certitudes sous ses grands airs pleins de tension. Mais vous savez quoi, la détresse? Elle a pas de conversation. À un moment, sur ma route, j'ai rencontré l'amour. Je lui ai dit, tiens, tu tombes bien, je veux te parler depuis toujours. Dans l'absolu, t'es une bonne idée, mais dans les faits, c'est un peu nul. Tu pars en couille une fois sur deux, faudrait que tu retravailles ta formule. L'amour m'a dit, écoute, petit, ça fait des siècles que je fais mon taf. Alors tu me parles sur un autre ton si tu veux pas te manger des baffes. Moi je veux bien être gentil, mais faut que chacun y mette du sien. Les humains ne font aucun effort et moi je suis pas un magicien. On s'est embrouillé un petit moment et c'est là que je me suis rendu compte que l'amour était sympa mais que quand même il se la raconte. Puis il m'a dit qu'il devait partir, il avait des rendez-vous par centaines. Et ce soir il devait dîner chez sa demi-sœur, la haine. Avant de partir j'ai pas bien compris, il m'a conseillé d'y croire toujours. Puis s'est éloigné sans se retourner, c'était les derniers mots d'amour. Je suis content de l'avoir connu, ça je l'ai bien réalisé. Et je sais qu'un de ces quatre, on sera amené à se recroiser. Un peu plus tard, sur mon chemin, j'ai rencontré la tendresse. Ce qui reste de l'amour derrière les barrières que le temps dresse. Un peu plus tard, sur mon chemin, j'ai rencontré la nostalgie. La fiancée des bons souvenirs qu'on éclaire à la bougie. Assez tôt sur mon parcours, j'avais rencontré l'amitié. Et jusqu'à ce jour, elle marche toujours à mes côtés. Avec elle, je me tape des barres et on connaît pas la routine. Maintenant, c'est sûr, l'amitié, c'est vraiment ma meilleure copine. J'ai rencontré l'avenir, mais il est resté très mystérieux. Il avait la voix déformée et un masque sur les yeux. Pas moyen de mieux le connaître, il m'a laissé aucune piste. Je sais pas à quoi il ressemble, mais au moins je sais qu'il existe. J'ai rencontré quelques peines, j'ai rencontré beaucoup de joie. C'est parfois une question de chance, souvent une histoire de choix. Je suis pas au bout de mes surprises, là-dessus y a aucun doute. Et tous les jours je continue d'apprendre les codes de ma route. Sur une grande route, je marchais là depuis des jours, voire des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient, un chemin un peu bizarre, un peu tordu, un peu comme la vie.
Malade, rencontre. Merci Alix, c'est sympa. Moi j'aime bien, j'aime la poésie de cette chanson, c'est très très beau. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, Tuer Velasquez, c'est un bouquin que vous pouvez aussi trouver à la bibliothèque d'Auckland. Philippe Girard, J-I-R-A-R-D, c'est un Québécois. Aussi une biographie. Alors là, c'est un peu plus noir quand même, l'album est en noir et blanc. C'est du 214 pages, donc encore très gros. C'était écrit en français d'abord, c'est très traduit en anglais. C'est un album de 2011 au départ, 2009 en français, chez Glénat Québec, et puis 2011 maintenant chez un éditeur BD Ang. Je ne connais pas. Et alors, Tuer Velasquez, pourquoi? Parce que, donc en anglais, Killing Velasquez. Velasquez, ça parle du monsieur Velasquez, celui qui a fait les peintures. En fait, parce que c'est un livre qui parle de religion, qui parle d'art, donc entre Velasquez, Picasso et d'autres artistes. Et puis, ce monsieur, c'est une histoire personnelle. Donc, ce monsieur, il est journaliste aussi, au Québec. Il est à Radio-Télé Québec, je crois. Peut-être une bêtise, Radio-Canada, pardon. Il est à Radio-Canada, Québec. Et c'est lui qui s'occupe des dessins, des planches, des maps, des. Comment on dit une map? Oui, une map, map carte. Monde, des cartes.
Une carte.
Et un jour.
Oui, il y en a un qui va donner beaucoup de sous à la cagnotte.
Ouais. Et il y a un jour, il est appelé, c'est en. Je ne sais plus, 96. C'est l'histoire qui parle. Qui part de 1983 jusqu'à 2010. En 83, ce monsieur, donc Philippe Girard, il est scout. Il est au Québec. et il quitte, je crois que sa maman divorce ou il change de ville. Et en changeant de ville, sa maman trouve que il faut qu'il se fasse un groupe d'amis. Il est un peu seul comme garçon. C'est un fils unique. Donc elle lui dit tiens, je connais le prêtre machin. C'est des catholiques. Prêtre machin qui est très jeune et sympathique. Il fait des journées, des groupes avec des jeunes. Il fait de la musique, tout ça. C'est sympa. Viens voir. Et lui, il fait non, j'ai pas envie de. Je vais à l'école, ça me suffit. Je veux pas être là. Bon, enfin. Donc sa maman le pousse un petit peu, et donc il rentre dans son groupe de jeunes, et c'est un prêtre progressiste qu'il rencontre, donc en 83, donc c'est un prêtre qui dit, on est tous libres, on est des garçons, mais surtout, dites pas papa, maman, ce qui se passe.
Et
je fais des groupes le week-end, on s'en va dans la nature parce que le Québec c'est plein de nature, il y a des arbres, des lacs, des forêts, donc on fait dans des camps, puis ce qui se passe entre nous, ça reste entre nous, okay. Bon, vous voulez où je veux venir, donc c'est une histoire aussi sur la pédophilie.
Mais il y en a une autre BD comme ça, une BD française.
C'est une BD francophone, oui. Je ne sais pas, il y en a sûrement d'autres. Mais, et donc, ce qui se passe, c'est que en l'an 2000, il travaille à Radio-Canada et on lui demande une plage pour un petit village en France. Et il fait pourquoi ? Il fait parce qu'il y a un pédéraste québécois qui est prêtre. Qui est maintenant en France et qui vient d'être condamné en France pour pédophilie et pédérastie sur jeunes catholiques en France. Et il fait ah bon ? Et c'est quoi le nom du mec ? Et on lui dit le nom. Et il a un gros flashback de 1983, donc 17 ans plus tard. Il est témoin et il échappe, pour lui, quelque part, heureusement, mais il échappe de peu. Parce qu'il est têtu, parce qu'il en a marre du catholicisme au moment où il est teenager, adolescent, et qui rencontre ce prêtre, lui ne se met pas dans l'engrangement. Il sent qu'il y a. Parce que le prêtre fait des bisous aux garçons, le prêtre touche les épaules des garçons, etc., etc. Le prêtre se réveille tout nu la nuit et marche dans la cuisine tout nu, etc., etc. Dans le camp des garçons. Enfin bon. Donc, vous voyez où je veux en venir. C'est assez lourd comme sujet. Et c'est en même temps, c'est une histoire vraie, basée sur une histoire vraie. Mais heureusement pour ce jeune garçon qui devient cet auteur de BD, ce journaliste, lui, il échappe parce qu'il est têtu et il sent le coup venir et regarde ses copains qui, eux, se font abuser sexuellement. Et lui échappe parce que il le raconte à sa mère, en fait. Il retourne d'un des camps et dit « Maman, tu sais, c'est ce qui se passe. » Et sa maman pète un plomb parce que c'est elle qui l'avait poussé.
Mais à ce moment-là, ils ne portent pas plainte.
Non, ils n'ont pas porté plainte, mais le prêtre se retrouve en France, bizarrement. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, si il porte plainte, il est jugé en Québec. D'après ce que j'ai compris, il a fait de la prison au Québec 6 ou 7 ans. Et après, il se barre du Québec, il arrive en France et la France n'a pas regardé rien du tout. Donc, ils se réveillent aussi 6-7 ans plus tard, dans les années 2000, et ils se disent « Ah tiens, c'est bizarre, il y a des petits garçons qui se font violer aussi en France, dans cette échevêché-là. » C'est un petit village en Bretagne, en Normandie, je me rappelle, en Bretagne. Enfin bon. Donc, il se fait quand même rattraper par la justice deux fois, une fois au Québec, une fois en France quand même, ce prêtre. Il mourra plus tard en 2010. Et c'est à l'annonce.
Tout le monde mourra en 2010 dans tes BD, en fait.
Oui, c'est la même époque. Et donc, la BD commence, en fait, en 2010. Philippe Gérard commence à écrire cette BD parce que, à l'annonce de la mort du prêtre, ça lui revient encore une troisième fois, en fait. Donc, 83, c'est quand les faits apparaissent au Québec avec lui, adolescent. 2000, c'est quand ça passe à la radio au Québec. Et 2010, c'est à la mort du prêtre, là où il a des nouvelles encore locales.
J'essaie de me souvenir du titre de cette BD qui raconte une histoire similaire, mais aussi un prêtre, mais française.
Lui, par contre, son problème à lui, il y a un avant-propos et une préface et un postface de l'album, c'est que lui, il en a presque marre de cette histoire de pédophilie, parce qu'il dit « toute ma vie a été marquée par ça ». Mais cette BD, je la veux surtout pour écrire pourquoi je suis venu à la BD, pourquoi l'art, parce que ce qui m'a sauvé c'est pas ma mère, c'est pas le prêtre, c'est la peinture, l'art et la bande dessinée. Mmh. Et les livres. Donc il se met à lire et ses profs, ses nouveaux profs, ses parents et lui-même se met à lire, à la bibliothèque et il trouve des bouquins, donc il retrouve des sources parce qu'il y a un conflit entre pourquoi Picasso est meilleur que Velázquez ou Velázquez est... Et en fait, il n'y a pas pourquoi Picasso est meilleur parce qu'en fait, il découvre qu'en 57, Picasso avait peint 12 fois la même peinture que Velázquez. Parce qu'il était, il admirait Velázquez, Picasso. Mais pendant sa jeunesse, lui, on lui avait donné un livre en disant, ce prêtre-là, ce prêtre pédophile, lui avait dit, oh non, non, mais Picasso, il est libre, c'est un mec vachement bien, Velázquez, c'est un nul. Et voilà. Donc, il nous reste plus longtemps. Lisez Killing Velázquez à la bibliothèque d'Auckland. Il y a beaucoup d'autres bouquins, si vous voulez.